tout ce que t'as à dire, fais quelque chose.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui est en jeu.
Si c'est notre honneur, vas-y-toi te battre.
Bah, au moins, vous êtes direct, vous. Et je vais vous dire une chose, j'aime ça.
Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps.
Ouais, c'est drôle.
Si t'es pas content, je me barre. Parce que entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es.
Et bah, barre-toi. Parce que toi, rien, c'est la même chose.
Accélère, nom de Dieu! Accélère! Je peux pas, Schumacher!
Salut! Bienvenue, voilà, il y a quelques boutons qui sont, nous sommes en direct, hein, vous l'aurez constaté, quelques boutons qui étaient décochés malheureusement. Bienvenue à l'écoute donc de la bande son, votre rendez-vous avec la musique de film, chaque lundi à 20h sur Jet, en FM à Nantes sur 91.2 et en DAB+, et disponible évidemment en podcast sur toutes les plateformes dédiées. À l'affiche aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison, une émission un peu spéciale, puisqu'après le tome 1 d'une histoire du cinéma français consacrée aux années 30 et auquel la bande-son avait consacré une émission en octobre dernier, je suis ravi de nouveau d'accueillir dans la bande-son Denis Zorgnotti à l'occasion de la sortie du second volume d'une histoire du cinéma français et consacré cette fois aux années 40. Bonsoir Denis.
Bonsoir Jérôme et merci pour cette invitation.
Avec plaisir. Moi j'ai dévoré, je te le disais à l'instant en antenne, ce second volume d'une histoire du cinéma français dont nous allons parler durant cette heure qui vient, avec quelques petites musiques pour respirer au milieu de tout ça. Je vais démarrer par une première question concernant ce livre, puisque en fait il s'ouvre avec une préface signée de Thierry Frémaux, qui est le directeur artistique du Festival de Cannes. Et je voulais savoir pourquoi ce choix a été fait pour ce second volume, et surtout si Thierry Frémaux avait accepté tout de suite de répondre à ta demande.
Alors, bon, déjà, donc, précisons que le livre donc, est coécrit par moi-même et Philippe Palin, voilà, qui est malheureusement décédé en mai 2020, et qui donc avait écrit aussi, coécrit le premier tome. Donc, Philippe Palin, évidemment. Donc, je voulais quand même, voilà. Revenir là-dessus et rendre à César ce qui est à César. Dans le cas de Thierry Frémaux, d'ailleurs, c'est vrai qu'avec Philippe, on avait évoqué son nom rapidement. C'était parmi les noms qu'on avait évoqués pour une préface. Et là, on lui a proposé, donc avec l'éditeur, Leitmotiv, mon éditeur qui est lillois, mais voilà, c'est pas Nantes, mais c'est très bien aussi.
Et qui est spécialisé d'ailleurs dans les ouvrages de cinéma.
Exactement. Voilà, comme voilà, il y en a plusieurs, mais il ne sort exclusivement que des ouvrages que de cinéma. Mmh. Et dans le cas de Thierry Frémaux, en tant que responsable de l'Institut Lumière, également du Festival de Cannes, hein, voilà, c'était un cinéphile connu, réputé, et on a pensé que ce type d'ouvrage pouvait lui plaire. Alors il a accepté. La préface d'ailleurs est extrêmement intéressante et très bienveillante à notre endroit. Il explique lui-même qu'il a accepté, oui. Et il a presque regretté en se disant il y a tellement de livres qui ont été écrits là-dessus, dans quoi je me suis embarqué, est-ce que je vais pas tomber sur un livre qui n'a que des redites. Et finalement il a aimé le livre et il a aimé l'approche qu'on en a faite, y compris surtout sur deux points. Sur la chronologie, généralement, moi-même, pour avoir étudié l'histoire du cinéma à la faculté, on a tendance à regrouper, à couper les années 40 en deux, en fait. Oui. De 1930-1944, on lit, on va dire, l'occupation à l'âge d'or et des années 30 comme si c'était le prolongement. Mmh. Et on a tendance à voir, à la fin de la guerre, tout de suite, le début des années 50, avec ce qu'on a appelé plus tard une qualité française. Mmh. Voilà, nous, on a repris la décennie dans sa totalité, et ça en change l'éclairage d'une certaine manière. Mmh. Et on essaie de montrer dans le livre que quelque part il y a un continuum à voir entre effectivement le cinéma de l'occupation, celui de la libération qui naît totalement de la période précédente, et y compris la fin des années 40, encore extrêmement marquée par la guerre. Mmh. Même historiquement, voilà, la France est encore avec des bons de rationnement jusqu'en 49-50.
Oui,
donc voilà, on a essayé de montrer qu'il y avait une continuité historique et une continuité esthétique. Petit à petit, on s'approche des années 50. Mmh. Voilà, et donc Thierry Frémaux a vu ce point-là. Il apprécie aussi le fait que... Je m'étends, hein, mais il apprécie aussi le fait que... dans nos choix de films, on sortait des sacro-saints. Bon, on parle effectivement des Enfants du Paradis, on parle du Corbeau, on en reparlera sans doute du Corbeau qui est un film essentiel, mais on a aussi nos coups de cœur personnels qui sont ceux qui vont vers des films moins connus comme Le Point du Jour par exemple de Louis Daquin, Le Lit à colonne de Roland Tual, et lui il a surtout remarqué Un Revenant de Christian Jacques qui se passe à Lyon et lui étant lyonnais, je pense que ça l'a beaucoup marqué, donc il appréciait le fait que voilà, on sorte un peu de l'histoire officielle pour donner des éclairages nouveaux.
Mmh. Donc la décennie, comme on l'a dit, donc est marquée évidemment par la guerre, avec l'occupation sur la moitié de la décennie quasiment, et puis ensuite la libération, et puis donc durant cette période d'occupation, on manque de tout. Alors le livre, comme le premier tome en fait, est aussi fourni de plein d'anecdotes sur cette époque. Au-delà de, je rappelle, hein, le livre aussi construit donc par chapitre, un chapitre par année, avec à chaque fois le rappel des faits historiques pour chaque année. Et par exemple, on apprend que on utilisait des poulets en carton pour le film Les Visiteurs du Soir, ou que par exemple il y avait deux musiciens, deux chefs décorateurs et deux chefs opérateurs pour Les Enfants du Paradis.
Oui, effectivement. Les Visiteurs du Soir, c'est amusant parce qu'effectivement, dans cette période de pénurie, on avait rassemblé de quoi faire un repas, mais finalement, les figurants affamés avaient tout mangé avant le début du film. Donc, effectivement, c'était moins facile pour la suite. Hein. Et après, ce qui est magnifique, c'est qu'en voyant le film, on s'aperçoit pas de cette
de
ces problèmes de ravitaillement. Et dans le cas des Enfants du Paradis, ce qui est remarquable, donc c'est un film ambitieux, 3 heures, deux époques. Des décors, etc., etc. C'est qu'effectivement, il y avait un manque de tout, y compris là, pour la peine, la pellicule était extrêmement rare. Et voilà, en voyant le film qui est considéré comme un des films majeurs du cinéma français, on n'a pas ce sentiment vraiment de pauvreté et de fait avec quelques bouts de ficelle. Hein.
Et puis, il y a les grands acteurs et actrices et réalisateurs des années 30 qui partent, hein, qui quittent la France, comme Gabin, Michel Morgan, Hamon, Duvivier, René Clair,
Jean-Pierre Aumont.
Duvivier, René Clair, Renoir, mais une nouvelle génération va apparaître en fait durant ces années-là, comme Bernard Blier, Micheline Prel ou Henri-Georges Clouzot.
Oui.
Ou même Bresson pour la réalisation.
Après, ce qui est amusant dans le cas de Robert Bresson, effectivement, il fait les Anges du Péché, c'est son premier film, et après Les Dames du Bois de Boulogne, bon, des films que lui-même après a renié d'une certaine manière, mais qui méritent vraiment d'être vus. Après, dans le cas de Clouzot, par exemple, voilà, il avait fait au début des années 30 un court-métrage, La Terreur des Batignolles, et là, il devient d'abord scénariste pour Le Dernier des Six, qui est la première histoire avec l'inspecteur Vance, qui va devenir le personnage de l'assassin habite au 21. Donc il y a effectivement des personnes qui étaient inconnues, qui étaient un peu de seconde zone, qui d'un coup prennent la lumière. Dans le cas de Clouzot, voilà, ça donne un des plus grands réalisateurs. Blier était déjà là, hein, il est dans Hôtel du Nord, mais là effectivement,
mais là, c'est la révélation, quoi.
C'est la révélation, oui, parce qu'il prend une place plus importante. Il fait des très grands films dans les années 40. Après, sa carrière, elle est ce qu'elle est, voilà, jusqu'à Lautner, jusqu'à Bertrand Blier, voilà. Mais il y a ces nouveautés et ces acteurs et ces actrices qui partent, ces réalisateurs aussi qui partent, qui reviendront plus tard. Je pense à Gabin quand même. C'est vrai que Gabin part, lui va vraiment s'engager. Il va faire des films aussi aux États-Unis, très peu. Il va rencontrer Marlène Dietrich. Il va essayer de revenir et ça va être pas si facile pour lui, puisque le premier film qu'il fait, c'est Martin Roumaniac, avec Marlène Dietrich, et il reste sur son personnage des années 30, mais bon, le public a évolué, on le voit plus comme ça, il a pris 10 ans, d'une certaine manière, et donc, voilà, il va mettre quelques années pour rebondir, et ça nous amènera sur les années 50, avec Touchez pas au Grisby, French Cancan, voilà, mais le retour de Gabin est difficile.
Alors, il y a aussi, on en parle aussi dans la fin du tome 1, c'est cette société de production allemande, hein, Continental Film, créée donc avec Goebbels à sa tête, qui dira à propos des films produits en France, donc c'est, je cite le livre, j'ai donné des directions très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides et si possible stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront, il n'est pas besoin de développer leur nationalisme.
Oui, bah, c'était le vœu de Goebbels. Après, c'est intéressant quand on voit les films de la Continentale. Il y a des films effectivement insipides d'une certaine manière, des films aussi vichistes, même si la France peut s'enorgueillir. Bon voilà, il n'y a pas eu vraiment de films antisémites.
Ça. C'est la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas vraiment de collaboration à l'écran.
Il y a un film Force occulte de Jean Mamy. Qui d'ailleurs a été fusillé, condamné à mort. Il a été fusillé, je crois, en 1949. Mmh. Il y a aussi un court-métrage de Pierre Hamelot aussi qui est ouvertement vichiste, antisémite, etc., etc. Après, on peut voir dans certains films un côté travail, famille, patrie. Voilà, on en parle dans le livre. Le voile bleu, par exemple, de Jean Stély. Péché de jeunesse de Maurice Tourneur avec Harry Bore. Voilà, on est sur l'importance de la famille. Mermoz, par exemple. Qui est un film qui met en avant une espèce d'héroïsme français, enfin presque antique. Avec après, bon, on pourra parler du film parce que le destin de l'acteur est totalement. Enfin, on peut en parler tout de suite si tu veux, mais l'acteur qui joue le rôle de Mermoz, donc cette espèce de héros antique qui s'appelle Robert Hugues Lambert, en fait va être, puisqu'il est homosexuel, il va être déporté. Il va mourir dans un camp en Allemagne. Et pour le film, puisqu'il manquait encore des raccords son, l'équipe, le réalisateur et l'opérateur son, le réalisateur s'appelle Louis Cuny, est allé faire des prises de son là où il était, donc en prisonnier dans le camp de Compiègne pour terminer le film. Et c'est tout le paradoxe de l'époque, voilà, je trouve, dans cette anecdote, de voir que celui qui devait représenter l'idéal français d'une certaine manière, l'homme viril, finalement donc homosexuel, déporté et qui meurt dans un camp comme ça. Mais effectivement,
quand même peu de films de propagande.
Propagande pure, non. Voilà, on ressent dans pas mal de films le côté travail, famille, patrie. Après, il y a tout l'axe aussi cinéma colonial où c'est né déjà dès les années 30 et ça se poursuivra encore dans les années 50 où on montre une femme, une France. D'ailleurs, il y a le lapsus, souvent la femme et la France est représentée par une femme. Mais là, en l'occurrence, on montre une France dans une mission civilisatrice qui apporte l'éducation, la santé, la technique à des pauvres Africains sauvages. Enfin, on est vraiment dans un autre type de propagande très colonialiste.
Donc il y a pas moins de 200 films qui seront produits entre 1940 et 1944. Par Continental Film et les spectateurs sont nombreux en fait à aller au cinéma. Cette croissance exponentielle des années 30 de remplissage des salles de cinéma. Et alors là, durant l'occupation,
On donne un chiffre dans le livre, les recettes en 43 doublent les recettes de 1938. Ouais. Donc effectivement, après on peut le comprendre aussi.
Il y a un besoin de divertissement.
Il y a un besoin de divertissement. Les films américains ne sont pas là. Les Français n'aiment pas tellement les films allemands. Il y a Le Juif Suisse qui est joué à Paris en 1940. Donc là, pour la peine, pur film de propagande antisémite. Mais bon, les Français sont versent pas dans le cinéma allemand et vont effectivement se rabattre sur des films français. Il y a des films comme 1940, Battement de cœur, qui est une comédie d'Henri Decoing. C'est presque une comédie à l'américaine, comme on pourrait dire, une screwball comédie, et un succès énorme. Enfin, il y a plein de films comme ça qui ont des succès phénoménaux. Oui,
beaucoup de comédies, des adaptations littéraires, des costumes.
Oui, bien sûr. Ce qui va devenir après un peu ça va être critiqué par la Nouvelle Vague, ce qui va devenir ce qu'on appelle la qualité française. un cinéma de studio, d'adaptation, où l'importance de ce technicien est énorme, avec des grands décorateurs, des grands chefs opérateurs, des grands costumiers. Il y a 12 de Claude Autant-Lara, qui est un film remarquable. Il y a quand même des œuvres extrêmement importantes dans cette période. Et peut-être j'anticipe peut-être les prochaines questions, mais c'est intéressant par rapport à la volonté de Goebbels, c'est intéressant de voir qu'en dépit de ses recommandations, un film comme Le Corbeau peut voir le jour. Mm-hmm. Parce qu'Alfred Greven, qui en fait dirige la Continentale, qui est quelque part francophile et cinéphile, va finalement laisser faire, va regarder ailleurs, y compris, il y a des films qui vont utiliser des techniciens juifs. Comme oui. Jean-Paul Le Chanois. Mmh.
Qui a en fait bossé à la Continentale, exactement. Ça devient un moyen de se planquer. Quoi.
Exactement, et par ailleurs il est dans la Résistance, enfin voilà, et ça Greven le sait pertinemment, mais vu que Le Chanois c'est un très bon technicien, il le garde. Et il y a ce film Le Corbeau qui finalement est un film extrêmement complexe, ambigu, qui parle justement de délation au cœur d'un petit village. Mmh. Et il y a cette image dans le film qui représente un peu toute la période et quelque part aussi la noirceur de Clouzot qui est l'ombre et la lumière. Voilà, il y a une scène avec Pierre Larquet qui agite une lampe sur un mur. Donc voilà, on passe de l'ombre à la lumière. Il y a ce discours en disant voilà, où est le bien, où est le mal. Les choses sont extrêmement complexes et ne sont pas figées. Et ça représente bien la période.
Et puis il y a ce film de Pagnol, La fille du puisatier, qu'aujourd'hui, le regard un peu étriqué qu'on pourrait avoir, on parlerait de film pétainiste parce que, comme tu disais tout à l'heure, le travail, la famille sont mises en avant.
Oui. Après, on est dans l'univers de Pagnol.
C'était déjà les thèmes qu'il abordait dans les années 30.
Exactement. Pagnol, qu'on ne peut pas accuser d'être pétainiste. Il a refusé de faire des films pendant toute l'occupation. Il n'y fera que Naïs à la fin de la guerre, après la guerre. Il va même à un moment monter c'est amusant, il va faire une exploitation d'œillets dans le sud pour planquer tous les techniciens qui pourraient être envoyés au STO. Et donc pour ce film La fille du puisatier, ben c'est un film particulier puisqu'il se tourne au moment de la drôle de guerre.
Ouais.
Donc il commence avant la guerre, donc avant mai 1940, il va se terminer après.
Avec dedans je crois un passage de Pétain.
Alors, c'est plus complexe que ça. À la fin du film, à la base, il y a Josette D, donc qui est l'actrice principale du film, qui en fait dit un texte, s'adresse face caméra et dit un texte qui en fait, c'est vraiment, on pourrait le comparer d'une certaine manière au dictateur de Chaplin dans le sens où c'est Pagnol qui parle à travers elle et un texte sur les morts de la guerre en fait. Pagnol a eu le malheur d'avoir pas mal de ses amis, pas mal d'acteurs qui ont tourné dans ses films qui sont morts durant la guerre comme Robert Barsac et elle s'adresse à eux. Ça, les Allemands vont détester et Vichy aussi parce qu'ils voient voilà une allusion à la guerre, à l'héroïsme français et ils vont couper pendant une période cette scène et le remplacer par un discours de Pétain qui sera à la fin de la guerre enlevé au profit d'un discours
de De Gaulle.
Voilà, donc c'est intéressant de voir voilà comment à un moment une œuvre qui est à la base extrêmement innocente, on est voilà dans l'univers de Pagnol, on est pas loin de Marius Fanny César, voilà pas à Marseille, en Provence tout de même, et finalement comment on essaie de récupérer le film suivant l'idéologie du moment et lui donner un sens que le film n'avait pas à l'origine.
Et puis il y a donc tu le citais tout à l'heure le cas de Jean Mamy Paul Rich qui était de gauche avant la capitulation de la France, franc-maçon également, qui va en fait très mal vivre cette capitulation et rendre les francs-maçons et les juifs coupables de toute cette débandade et qui du coup va s'en fourvoyer dans des films extrêmement durs, totalement antisémites et donc contre les francs-maçons, ce qui lui vaudra d'être fusillé donc à la Libération. Il y a aussi donc durant cette époque beaucoup de films tournés dans les colonies françaises, comme on disait tout à l'heure, avec soi-disant pour montrer en fait la puissance coloniale française, mais c'est surtout pour faire la propagande de sa bienveillance, alors qu'en fait ils sont complètement racistes quand même.
Oui, oui. Après c'est amusant dans le livre donc on met en avant des films, on met en avant des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs et des dossiers thématiques.
Sauf un court métrage qui est cité, Afrique 50.
Oui, qui sort en 1950. De René Vautier, qui est un court-métrage, on en parlera dans les années 50, qui lui va justement...
Et qui justement dénonce.
Oui, oui. Vautier, il est membre du Parti communiste français, et il s'en vantait d'une certaine manière, c'est peut-être le cinéaste le plus censuré en France, puisque avoir 20 ans dans Les Aurès, qui est un des premiers films brûlots contre la guerre d'Algérie, en 73 sera interdit. Et là, en 1950, oui, il part filmer les colonies, il s'aperçoit de la situation, et il fait fait un court-métrage qui serait interdit. Mais effectivement, avant ça, et même d'ailleurs après Vautier, avant la décolonisation, surtout à partir de 1960, la France a à cœur de montrer les colonies telles qu'elle veut les représenter, et montrer la grandeur de la France. Là, je mets en avant dans le livre, il y a vraiment un dossier cinéma colonie, surtout deux films qui sortent tous les deux en 1940. Donc il y a L'homme du Niger de Jacques de Baroncelli, et sinon il y a Brazza aussi. Brazza ou L'épopée du Congo de Léon Poirier. Les deux sortent en 1940. C'est deux films de prestige. Le premier devait aller au Festival de Cannes de 1939 qui finalement a été annulé. Le deuxième a été présenté à New York. Et vraiment, les deux montrent, voilà, comme on a dit, comme tu as dit, cette France qui sauve vraiment une espèce de grandeur. Et c'est intéressant de voir que les films sortent en 1940, au moment où il y a la défaite. Au moment aussi où il y a le drame de Mersel Kébir, où la flotte française est anéantie par l'aviation anglaise pour pas que les Allemands puissent récupérer les bateaux. Donc il y a cette espèce de fierté qui a été mise à mal. Hein, et ces films-là vont justement aider à remettre du baume au cœur d'une certaine manière, c'est en ça, disant voilà,
retrouver un peu la grandeur de
la grandeur qui vient de on a perdu capituler. Mais en même temps voilà, on a ces colonies toujours. C'est intéressant en tout cas. Oui, tout à fait.
Et puis en 41, alors il y a un film produit par la Continental qui sort en France, qui est L'assassinat du Père Noël.
C'est le premier d'ailleurs qui est produit par
Film que j'ai vu un certain nombre de fois avec ma grand-mère étant gamin et qui m'a beaucoup marqué, ce film, et que donc je découvre dans une histoire du cinéma français en fait ses origines, et un film de Christian Jacques, voilà, je dis bien, et un film à la fois en fait en mélange entre le conte fantastique, le film policier. Ce sont des genres qui plaisent beaucoup à cette époque.
Le film policier, on a parlé de l'assassin à Bito 21, évidemment, qui est en même temps qui est assez drôle, c'est un film, moi je trouve, qui est pittoresque, avec un vrai suspense, et après il y a le cinéma fantastique. C'est intéressant parce que c'est une période faste, mais qui s'explique aussi par la volonté, dans toutes ces années d'occupation, on voit pas d'ailleurs un soldat allemand, on n'évoque pas la guerre, dans La fille du Puisatier d'une certaine manière, mais c'est bien des sujets qui ne sont pas abordés. Et donc, le fantastique, c'est un recours qui est pratique pour justement, pas parler du quotidien. Et c'est une période faste. Donc, il y a effectivement ce film qui joue sur le conte. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle La main du diable de Maurice Tourneur, qui est comme une sorte de pacte faustien entre un artiste. Il a l'occasion d'avoir une main qui va lui permettre de devenir un artiste important avec un pacte fait avec le diable. Et il y a une scène mythique dans le film que vraiment je conseille à tout le monde de le voir. C'est avec Pierre Fresnay. Le diable est joué par un petit bonhomme qui ressemble à un fonctionnaire qui s'appelle Palo. Et il y a une scène magnifique où en fait on retrace l'histoire à travers les âges et les époques de cette main qui passe de personne en personne, et la scène est faite en ombre chinoise. Donc c'est une vraie prouesse technique, et c'est un mode de narration extrêmement original. Mais il y a ces films-là, il y a Sortilège de Christian Jacques également, il y a L'éternel retour, il y a aussi, donc j'en ai parlé vaguement, mais le Lit à colonne qui joue aussi sur une thématique de conte. C'est un film avec Jean Marais, Fernand Ledoux, avec des dialogues de Cocteau. C'est d'après Louise de Villemorin. Les costumes sont de Christian Dior. C'est un film très classieux, un peu oublié, mais qui mérite, on l'a mis en coup de cœur parce qu'effectivement il mérite d'être vu et revu.
Et puis alors le livre fait aussi une sorte de mini-série à l'intérieur qu'on va suivre au fil des chapitres, sur notamment tous ces gens de cinéma qui se sont à la fois engagés dans la résistance ou à l'inverse qui ont un peu failli, et notamment parmi eux il y a, dans ceux qui se sont engagés, Robert Linen, l'enfant star de Poil de Carotte.
Poil de Carotte, exactement,
qui va s'engager et qui, dès 1942, qui finira par être arrêté et fusillé en 1944.
Oui, parce qu'il est arrêté, il fait partie de la résistance, il est arrêté, évidemment, évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, c'est ça arrivait malheureusement voilà, souvent.
C'était et un peu le destin tragique.
Et voilà, et il a essayé de s'évader plusieurs fois, je crois, et il est finalement fusillé en 1944, si je ne m'abuse. Mmh, mais oui, c'est un feuilleton qui s'appelle L'Occupation sans relâche, en 4 épisodes. Ça, c'est Philippe, ça lui tenait vraiment à cœur. Il a essayé de compiler à peu près tous les destins des acteurs et même parfois au-delà d'une certaine manière. Mmh. Enfin, on parle de Charles Trenet. Bon, Charles Trenet, il a tourné dans des films. Hein. Je chante, c'est dans un film. Enfin, voilà, il a été acteur et on parle de Charles Trenet parce que c'est un détail, une anecdote amusante, mais lui, à un moment, il a été arrêté parce qu'on pensait qu'il était juif, surtout parce que il ressemblait à Harpo Marx, un des frères Marx, qui était donc juif. Mmh. Et les Allemands se sont dit, ah tiens, cette ressemblance. Et donc, il était à un moment arrêté par la Gestapo. Il a pu en réchapper, mais il s'est quand même pris une petite balle dans la jambe qui l'a un peu handicapé pendant un moment. Mais ça fait partie de l'histoire, effectivement, de ses destins... plus ou moins glorieux, de ses anecdotes, de ses revirements, de ses incompréhensions aussi de l'époque, qui fait que certaines personnes vont être mal jugées à la libération. C'est une période très complexe, hein, qui est difficilement... Ça n'excuse pas l'attitude de certains.
Non, mais il ne faut pas être manichéen. Hein.
Pas du tout.
C'est un peu ce qu'on en retire à la fin de la lecture de ce tome 2, c'est que tout n'était pas forcément blanc ou noir. Il y avait... parfois une part d'ambiguïté.
C'est intéressant, c'est par exemple le cas de Claude Autant-Lara. Donc Claude Autant-Lara a commencé à faire des films dans les années 30, mais avec Maurice Lehmann. Mm-hmm. On pense, lui-même l'a dit, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il a eu l'impression d'être un peu brimé, on va dire, par les Juifs qui étaient dans le cinéma. Et donc, à partir des années 40, grâce à la guerre d'une certaine manière et à l'absence de réalisateur, il va pouvoir faire des films et des films importants. Le mariage de Chiffon, Douce, on en a parlé, Le Diable au corps, Occupe-toi d'Amélie, qui est une adaptation extrêmement rigolote de Fedot qui casse le quatrième mur. Voilà, il y a un moment, le public qui regarde le film d'une certaine manière n'est pas content, il monte sur scène pour se plaindre de ce qu'il voit, donc c'est assez amusant. Mais authentiquement, il est à la fois, il fait partie du Front National de l'époque, c'est-à-dire le Front National de la Résistance, il est résistant, mais par ailleurs, il tient des propos antisémites, et après, c'est la seule personne qui a fait partie du Front National de la Résistance, donc à l'époque, et qui après fera partie du Front National, le parti à l'époque de Jean-Marie Le Pen, en devenant des députés européens. Voilà, c'est une drôle de trajectoire que celle d'Autant-Lara, et elle témoigne aussi de ses ambiguïtés, mais les cas sont vraiment nombreux. Enfin,
Alors il y a l'acteur Dalio qui lui est vu comme le juif typique, la caricature en fait exécrable hein, que véhiculaient les nazis. Et donc il va quitter la France, mais son passeport et celui de sa femme en fait ont été très très mal faits, et donc il manque de se faire arrêter et de revenir en France, de se faire extrader de nouveau vers la France. Alors il se réfugie à Hollywood et il va nouer des relations avec Lorraine Bacall et puis Humphrey Bogart.
Il est dans Casablanca, c'est quand même énorme.
Et ouais, et de retour en France, on va le retrouver quelques années plus tard dans les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry.
Exactement. Je crois que surtout à l'époque, la droite nationaliste antisémite avait extrêmement mal vécu dans La Grande Illusion. Donc il fait partie de La Grande Illusion avec Pierre Fresnay. La Grande Illusion, de toute façon, on montre une France unie dans ce film magnifique pacifiste. Et lui, c'était finalement le personnage le plus fraternel. Hein. Que ce soit joué par Dalio qui est juif, on le sait, donc avait été très très mal vécu. Par les vichistes après coup, voilà, c'est on a tenu rigueur. Mais après voilà, il y a Harry Bore, on a un peu oublié qui était Harry Bore aujourd'hui, mais Harry Bore c'est un des grands monstres sacrés des années 30 au niveau de Michel Simon ou de Rému, donc lui a beaucoup joué des juifs dans les années 30. Lui-même disait tout le monde va croire que je suis juif. Il avait joué notamment dans David Golder, et il était marié à une épouse qui était juive, qui était devenue musulmane. Il n'empêche, sa femme a été arrêtée, lui aussi, pour suspicion. Après, on n'a pas vraiment su, mais il a été gardé en prison quelques temps. Et quand il est ressorti, c'était une espèce de colosse, un peu comme Rému, hein, personnage massif. Il avait perdu, il faisait 40 kilos, il était complètement amoindri, amaigri, et il va mourir. Voilà, on ne sait pas exactement, même encore aujourd'hui, pourquoi il a été arrêté. On se demande s'il n'était pas résistant ou s'il n'était pas considéré comme espion. On a encore des doutes sur le pourquoi du comment. Mais en tout cas, voilà, Ribord meurt en 41 à cause de la guerre, enfin, de manière très, très violente.
Denis, je te propose de faire une petite pause musicale avec des titres que tu as proposés pour la bande-son. Et je te propose le titre d'Edith Piaf, c'était une histoire, alors est-ce que tu peux brièvement...
Pourquoi
ce titre ?
Alors pourquoi ce titre ? Bon, Edith Piaf, hein, qui donc joue en 1946 dans un film de Marcel Blisten. Bon, le film n'est pas resté dans les mémoires, c'est Étoiles sans lumière, c'est pas un grand film, c'est un film qui est fait vraiment à sa gloire, hein, où elle chante beaucoup. Mais ce film est le premier d'Yves Montand, qui est pas très bon, qui joue le rôle d'un boxeur. Yves Montand, le grand Yves Montand, va mettre quelques années à devenir un grand acteur. Et voilà. Mais c'est son premier film et ça valait la peine de le souligner. Voilà, juste avant Les Portes de la Nuit, qui est son deuxième film avec Marcel Carnet. Donc Edith Piaf, je crois, qui arrive.
C'est ça.
Qui prend sa revanche, y a que le chagrin qui est content. Vraiment, il y a de quoi rire, j'ai l'impression de vouloir mourir. C'était une histoire d'amour. C'était
Édith Piaf, c'était une histoire d'amour dans la bande-son. Nous sommes toujours dans la bande-son pour évoquer le tome 2 d'une histoire du cinéma français, les années 40, avec Denis Zorniotti. Alors Denis, on va... Voilà.
Livre co-écrit avec co-écrit, Philippe Alain.
Pardon, oui.
Voilà. Et aux éditions Leitmotiv. Je fais ma promo par ailleurs et je rends hommage à Philippe.
Oui, ne l'oublions pas. Je vais pas lister tout ce qu'ont pu faire les acteurs, réalisateurs, actrices de l'époque durant cette période assez sombre, mais il y a quand même, je voulais quand même citer Michel Simon qui, comme on le sait, comme les auditeurs le savent peut-être, bravait l'occupant nazi en prenant de grands risques, hein, puisqu'il s'affichait avec l'étoile jaune sur le torse, et en longtemps, on a appris de la bouche d'un ancien responsable du contre-espionnage russe qu'un célèbre acteur français, voilà, travailler pour eux, pour l'Union soviétique, et tout porterait à croire que ça pouvait être Michel Simon.
Oui, c'est voilà, moi j'ai entendu ça depuis très très longtemps, donc c'est pas avéré, mais bon, il y a des fortes chances de penser que c'était lui l'espion à la solde de l'Union soviétique. Ça m'étonnerait pas, vu le personnage iconoclaste. Voilà, on en avait parlé lors de la première émission. Oui, voilà, Michel Simon, c'est quand même un personnage, donc évidemment.
Oui. Un personnage un peu à part dans le cinéma
c'est
français.
C'est vrai, mais talentueux, oui. S'il en est.
Complètement. Alors bon, Jacques Prévert, lui, avait refusé de travailler pour La Continentale. Marcel Pagnol, lui, ne tournera plus aucun film durant l'occupation. Et puis, Louis Jouvet, lui, va abandonner le cinéma pour retrouver le théâtre, en fait. Avec une tournée en Amérique du Sud que certains journalistes, d'ailleurs, soupçonneront d'être une propagande pour Vichy.
Voilà, oui, il y a plein de destins comme ça. Sur le théâtre, il y a Guitry aussi. Oui. On peut parler. Guitry, c'est amusant parce que il a eu la chance d'avoir
ses théâtres ont pu réouvrir.
Exactement. Voilà, il a dit, vous avez la France, mais vous n'aurez pas la culture française. Et il s'est retrouvé, à la fin de la guerre, emprisonné 60 jours. Il a été, on dit, arrêté en pyjama. Oui. Donc voilà, c'était pour lui, je pense, enfin, voilà, ça se devait pas très gai, voilà, non. C'est un peu mortifiant, j'imagine. Je pense que on retrouve dans le film, il est la Poison qui date de 1951. Il règle un peu ses comptes avec tout ça. Ouais. C'est un film extrêmement aigré avec Michel Simon, justement. Et je crois que Guitry, voilà, était extrêmement marqué par cette période.
Par contre, alors les Frères Lumière, eux, là, c'est pas vraiment glorieux.
Hein, oui.
Ce qu'on apprend quand même dans ce livre, c'est que, entre Auguste et Louis qui remercient et rendent hommage en cœur à Pétain et à Laval.
Voilà, bon, ils commençaient à être vieux. Oui. Après, c'est amusant parce que
ça n'excuse pas tout non plus.
Dans les années, au début de l'euro, je crois, il y avait un billet qui devait être à l'effigie de Louis.
Des Frères Lumière, tout
et
à
c'est
fait,
à cause oui. de cette ça histoire été, que finalement, voilà, a, quelqu'un à un moment. Ouais. Exactement.
Alors 1945, donc c'est la fin de la guerre, renaissance du cinéma avec 130 films à l'affiche. Parmi lesquels des très grands succès comme Boule de Suif de Christian Jacques.
Oui, que j'aime beaucoup, voilà, à découvrir ou à redécouvrir.
Il y a... Les Enfants du Paradis, hein, qu'on a évoqué, de Marcel Carnet. Oui. On arrive arrive en France, donc un film sorti en 40 aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas le droit de projeter, évidemment, c'est Le Dictateur de Charlie Chaplin.
Oui, et après c'est amusant, c'est important, là on vient sur presque des affaires économiques, mais qui sont extrêmement importants, vont être signés aussi les accords Blooms-Burns, qui font partie quelque part du plan Marshall, oui. Qui vont obliger le cinéma français à diffuser plus de films américains.
C'est ça, c'est en contrepartie de l'argent que Exactement. Les États-Unis vous donnent, et bien vous devez passer mais, aussi du cinéma.
Voilà, alors après les Français voyaient des films américains, hein. La première histoire du cinéma, d'ailleurs, de Bardèche et Brasilia, qui date des années 30, mettait en avant beaucoup de films américains. Mais là, voilà, ça va s'accentuer. Après, j'imagine, enfin, je me mets à la place peut-être du public français qui découvre en 45, 46, 47, d'un coup, tous les films qu'ils ont manqués, notamment les films noirs, Humphrey Bogart. Et je pense que, voilà, ça va en tout cas marquer beaucoup. Jean-Pierre Melville va bientôt faire ses premiers polars dans les années 50. Enfin, voilà, le cinéma américain va prendre un essor plus grand et notamment grâce à ces accords qui garantissent le fait que le public français voit plus de films américains sur les écrans.
Alors, 1946, là, on voit renaître le Festival de Cannes. C'est la naissance aussi du CNC.
Oui.
Et en échange donc d'aide financière donc pour reconstruire la France, comme tu disais, les Américains disent, bah, vous allez passer des films américains. Et on a également, parmi les films à succès en 1946, La Belle et la Bête de Jean Cocteau.
Oui, oui, on parle évidemment de La Belle et la Bête, qui reste encore aujourd'hui un film merveilleux, avec des effets...
Et une superbe photo d'ailleurs dans le film de Jean Marais, dans le livre de Jean Marais.
Oui, bah, dans le film aussi, la photo est magnifique. Mmh. Il y a des effets d'optique très simples, mais qui rajoutent au merveilleux. Il passait, enfin, en plus ça, le pauvre Jean Marais, hein, c'était 3 heures pour mettre le masque sur sa tête. Enfin, c'était 1 heure, je crois, par griffe, hein, pour le maquillage. Enfin, pour ses pattes. Donc voilà, il a donné de sa personne. Mais le film, effectivement, reste un film merveilleux encore aujourd'hui et participe même à la fin de la guerre encore à ce merveilleux qui va imprégner quand même le cinéma français, même jusqu'à un passé récent. Hein, le cinéma fantastique français est différent, je trouve, du cinéma anglais ou même dans les années,
oui.
C'est intéressant c'est intéressant de voir que voilà dans les années 40 il y a la féline de Jacques Tourneur, pas Maurice Tourneur, il y a l'idée de faire peur. Nous on est moins dans ce genre de volonté, on est plus dans la rêverie, dans une esthétique de conte de fées. Et voilà, tout beaucoup de films années 50 encore sont là-dedans, années 60 encore aujourd'hui. Mmh. Même j'allais dire Petite Maman. Voilà, on est encore dans le conte avec Céline Sciamma sur les écrans actuellement.
Mmh. Alors, mais en vérité, en fait, le cinéma fantastique français, c'est pas nouveau en fait, puisque dès 1928, il y a l'adaptation de La Chute de la Maison Usher donc nouvelle de Edgar Allan Poe
par Jean Epstein, c'est un très très grand film
et qui donc sera ensuite repris plusieurs fois, dont par Roger Corman en 1960, hein, qui était fan de l'auteur avec Vincent Price en tant qu'acteur. Et puis il y a aussi Vampire de Karl Dreyer en 1932, qui s'inspire lui-même de Nosferatu.
Voilà, il y a aussi La Charrette Fantôme. Il y avait un film de Sjöström muet qui est repris par Julien Duvivier. Mmh. Ce que j'ai dit dans le livre, et je le pense, hein, c'est que ce cinéma fantastique français, ben, c'est Dreyer, c'est une adaptation de Sjöström, c'est aussi Lilium de Fritz Lang, hein, qui avant d'aller aux États-Unis où il fera Fury, qui est un de ses meilleurs films, je trouve, avec Spencer Tracy. Il s'arrête en France, il fait ce film avec Charles Boyer, avec aussi une scène formidable où il monte au ciel et il y a les anges. Enfin, c'est une scène. Mmh. Mais c'est Fritz Lang, hein, c'est un Allemand. C'est encore un peu, il y a encore une influence étrangère, j'allais dire, et c'est vraiment dans les années 40 où d'un coup, La Main du Diable, Sortilège, il y a beaucoup de films, hein, ceux qu'on a cités et même d'autres. Hein.
Oui. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement en fait à l'Angleterre, la France conserve cette version du cinéma fantastique qu'elle a bien à elle, hein, proche de la poésie, du conte. Et par contre, contrairement à ce que fait notamment la Universal à l'époque, avec toute cette série de films de monstres ça va être la griffe universelle en fait, hein,
oui,
avec les Frankenstein.
Dès les années 30, oui.
Voilà. Et le loup-garou, etc. En France, en fait, le seul monstre, entre guillemets, enfin, on représente le mal par le diable.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le diable.
Pas d'autre incarnation.
Parce que, par exemple, il y a Sylvie et le fantôme de Claude Autant-Lara avec Odette Joyeux. Le diable, d'ailleurs, c'est Jacques Tati. Mmh. Mais c'est le fantôme, Sylvie et le fantôme de Claude Autant-Lara. Mais c'est un fantôme qui est bienveillant, amusant. Voilà, on n'est pas du tout dans l'effroi. Et effectivement, le diable. Hein. Alors, c'est marrant parce que, effectivement, le diable le plus célèbre, c'est Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir. A posteriori, on a vu dans le film, mais c'est difficile de le dire. Ouais. Voilà, c'est une relecture a posteriori un film sur la résistance,
oui,
avec Jules Berry qui représenterait effectivement le mal et finalement l'Allemagne. C'est une thèse aussi qui est avancée parce que donc le scénario de Prévert Prévert, en 1936, avait fait un poème contre le franquisme où il prenait cette image de couple pétrifié d'un cœur qui continue à battre, ce qui est dans le film, la fin du film. Et on a pu voir ça comme voilà la France qui a perdu mais qui continue à résister.
C'est très bien expliqué d'ailleurs dans le livre.
Voilà. Ouais. Et en même temps, à l'époque, ni l'occupant, ni Vichy, ni le public n'y a vu aucune allusion. Ouais. Et en même temps, ni Carnet ni Prévert même ont attesté cette version. Donc c'est une version, on va dire, a posteriori. Il y a un film vraiment qui peut être considéré comme un film un peu de résistance, c'est Pontcarral, maréchal d'Empire, de Jean Delannoy. Aussi parce que l'acteur principal, c'est Pierre Blanchard. Et Pierre Blanchard, ça va devenir à la fin de la guerre, monsieur l'acteur le plus Fouquier-Tinville de l'époque, qui veut effectivement, qui donne des bons points, qui accuse publiquement, voilà, qui fait un peu la pluie et le beau temps pour dire qui a fauté, qui ne l'a pas fait. Donc il est dans le film. Et il y a une phrase aussi à un moment où le personnage est condamné et il dit avec un tel régime, c'est un honneur que d'être condamné. Donc on a senti dans cette phrase vraiment un appel à la résistance. Voilà. Voilà. C'est peut-être le film le plus évident. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est des lectures après coup. C'est difficile de savoir quelles étaient les intentions des auteurs à l'époque.
D'ailleurs, c'est une phrase qui vient un peu, je trouve, en parlant en contradiction avec ce que pensait Giono, je crois, qui racontait dans le livre aussi, qui disait, lui, je préfère être un Allemand vivant, en gros, qu'un Français mort.
Exactement, oui, Giono, qui lui aussi est assez ambigu dans son... Puis même, quelque part, son rapport à la Terre aussi, qui rentre quelque part aussi dans l'idée de travail, famille, patrie, enfin, d'une certaine manière. Ce qu'on a pu reprocher, finalement, aussi à Pagnol, est encore plus chez Giono, avec cette phrase en plus
qui jette encore plus le trouble.
Exactement.
Alors, la France ne va pas s'arrêter de tourner des films fantastiques, même dans les années 50 et après, puisque bon, ça n'a rien à voir avec l'Angleterre et les studios Hammer, par exemple, mais en France, on va rester dans le conte, la rêverie. On aura notamment Peau d'âne.
Oui, bien sûr.
De Jacques Demy en 70. Il y a Petit Poucet de Michel Boiron en 72.
Oui, avec Jean-Pierre Mariel dans le rôle de l'ogre. Voilà, Jean-Pierre Mariel qui fait peur. Enfin, quand on est enfant, en tout cas, on a peur, ça c'est sûr.
On a passé à Nantes, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de l'Absurde Séance et du SoFilm Summer Camp Festival, un film où Jean-Pierre Mariel aussi fait peur, qui s'appelle La Traque.
Oui, tout à fait.
De Serge Leroy. Donc si les auditeurs ont envie de voir Jean-Pierre Mariel qui fait peur, voilà deux exemples. Il y a aussi François Ozon qui utilisera le conte Hansel et Gretel dans Les Amants criminels.
Oui, tout à fait. Un film très, très original. Là, on sort totalement des années 40. C'est un style qui va se développer. Dans les années 50, il y a Marianne de ma jeunesse, qui est un film c'est un film coproduit avec l'Allemagne, avec Pierre Vanek, qui est beaucoup sur l'atmosphère, une atmosphère de forêt, d'eau. Enfin, c'est un film très, très beau, assez original chez Duvivier. Il y a Marguerite de la Nuit qui est, il y a aussi, évidemment, La Beauté du Diable. Voilà. Là, on est sur des films qui sont sur des pactes faustiens. Littéralement, enfin, La Beauté du Diable, c'est Méphistophélès avec Gérard Philippe, qui la jeunesse éternelle. Mais on est quand même dans la représentation du diable, comme tu disais, qui revient assez souvent.
Et puis, on peut citer un film plus récent aussi, Les Revenants de Robin Campillo en 2004.
Oui, moi, c'est un film que je mets en avant parce que c'est un film que je trouve extrêmement original. Oui. Donc, avant la série, puisque la série après a été faite, le film est tout antérieur, avec un traitement très, assez froid, presque scientifique, comme un fait scientifique c'est traité un film de zombies, mais d'une manière, comme si on étudiait le phénomène, ça change complètement des films de Romero, par exemple. On est complètement dans un autre cadre, mais le film n'en est pas moins, troublant et, effrayant d'une certaine manière par sa froideur. C'est un film que je conseille si vous ne l'avez pas vu. Robin Campillo, 120 battements par minute, notamment. Qui est un réalisateur qui compte. Mais celui-là, c'était son premier film comme réalisateur et il n'est pas mésestimé.
Et puis, alors, on arrive à l'année 1947. Alors, bien qu'elle soit considérée par les historiens comme l'année de la misère, d'après-guerre, c'est aussi l'une des meilleures de la décennie, apprend-on dans le livre.
Je trouve, c'était la vie de Philippe également.
Puisque, il n'y a pas moins de 88 films qui sortent cette année-là, dont Quai des Orfèvres d'Henri Georges Clouzot.
Oui, Quai des Orfèvres. Ah ben, ça tombe bien pour peut-être, je ne sais pas, peut-être je prends un peu de l'avance sur la musique, mais oui, Quai des Orfèvres, qui est un film important, qui est un film aussi qui traduit aussi chez encore plus. Par rapport à l'assassin Habite au 21, la noirceur de Clouzot, il y a vraiment des personnages extrêmement troubles, extrêmement... Le corbeau aussi, évidemment. Hein. Mm. Le corbeau, voilà, entre les deux. Mais un film, oui, majeur, avec Louis Jouvet, Suzy Delair, aussi, également. C'est un film... il y a Bernard Blier aussi, également. Oui. Et une anecdote qu'on raconte, d'ailleurs, qui est amusante, puisque, bon, Clouzot, on le sait aujourd'hui, il n'était pas vraiment la personne la plus aimable.
Il était assez odieux avec ses acteurs.
Oui, je pense qu'on pourrait appeler quelqu'un, on pourrait dire maintenant le pervers narcissique.
Oui.
Mais en l'état, il avait giflé Bernard Blier sur le tournage. Oui.
Cela dit, Melville n'était pas,
pas
plus tendre.
Mais bon, après, voilà. Après, je sais pas, on va pas faire de podium. Mais voilà, il a beaucoup, il a giflé Cécile Aubry pour Manon, Bardot pour La Vérité. Bardot lui a rendu
une claque.
Et dans le cadre qui est des Orfèvres, après, Bernard Blier disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas lui répondre. Je fais 30 kilos de plus que lui. Donc,
le passage est très drôle.
Le passage, voilà. Ouais. Et, mais effectivement, on imagine le bonhomme. Après, voilà. Après, grand réalisateur. Est-ce que avec ça excuse tout?
Voilà,
est-ce que c'est la question qu'on peut poser avec d'autres réalisateurs d'ailleurs?
Eh bien, on va pas encore se quitter. Il nous reste encore une bonne dizaine de minutes, mais on va écouter du coup, voilà, ce titre extrait du film Quai des Orfèvres.
Oui, Suzy Delair.
Elle habitait ces villes, et dans toute la ville, c'était la plus agile. De toutes les gitanas,
il en était plus belle, mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun revenait dans ses bras. Ce qui les troublait à l'extrême, et le rendait fou de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala était si tralala que nulle part y'en avait un comme ça.
C'est pas écrit.
Donnez. Regardez, Léo, une faute de copie.
Ça m'aurait étonné.
Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas?
Dépêche-toi, génie, les animaux attendent.
Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les trouble de l'extrême, et le rendait fou de désir. Pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala était si tralala que nulle part y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une tocade pour Don Pedro l'alcade. À cause de ses gros bras, loin de se laisser séduire, il eut un petit sourire qui avait l'air de dire : toi tu ne mourras pas. Avec son tralala, son petit tralala, aussitôt elle se mit en campagne. D'un coup de tralala, elle fit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Pour aussi d'avouer sa défaite, elle avait une arme secrète, avec des effets foudroyants. Avec son tralala, son petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes, car son petit tralala était si tralala que Pedro le lendemain l'épousa.
Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette émission consacrée, donc la bande-son consacrée au tome 2 d'une histoire du cinéma français les années 40, coécrit par Philippe Palin et Denise Orgnotti, notre invité dans cette émission. En 1948, je voulais évoquer avec toi, Denis, donc quand même cette découverte hein, de nouvelle et jeune actrice qu'est Simone Signoret.
Ah ben oui, quand même, Simone Signoret, tout à fait, qui là joue dans un film majeur, c'est pas son premier, mais c'est Dédé Danvers, d'Yves Allégret, qui va être son mari, en tout cas ils vont être ensemble sur, sur plusieurs années, et effectivement ça va, il y a, on parle du film qui avec voilà son ambiance portuaire, qui est un film majeur, hein, avec Bernard Blier aussi et Marcello Pagliero, qui va réaliser des films d'ailleurs dans les années 50, réalisateur italien, et premier rôle de prostituée pour Simone Signoret, pas c'est le ça. Dernier.
Non, non, parce que dans Casque d'or également.
Casque d'or également, et après, c'est à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, elle n'était pas encore morte, hein, elle est morte en 1986, si je ne m'abuse, c'est 85-86, Madame Rosa, La vie devant soi, donc voilà l'adaptation du livre d'Émile Ajar, mais effectivement, c'est un des rôles emblématiques, enfin, comment dire, pas des rôles, mais en tout cas, des emplois caractéristiques de Simone Signoret, la prostituée, à différentes époques, hein, voilà, en tout cas sur ces trois films, hein, qui sont trois films célèbres.
Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à la lecture donc dans le livre hein, Une histoire du cinéma français, le tome 2. Donc il y a un dossier consacré à la prostitution féminine au cinéma, voilà, qui est passionnant et que je vous conseille vivement. Et puis à cette époque, on a aussi Gérard Philippe qui lui devient par contre le héros romantique au cinéma. Et puis le documentaire aussi qui naît aussi à cette époque.
Oui, surtout, parce qu'il y avait
genre
eu...
genre assez en marge, en parallèle du cinéma.
Oui, tout à fait. On parle de Farbik, de Georges Rouquier, qui est un film majeur de Paris 1900 de Nicole Védress. Voilà, après, c'est une période riche aussi de ce côté-là, avec ces nouveautés-là. Bon, après le documentaire, voilà, il y avait des choses précédemment, mais là, voilà, il y a plus d'ambition, des films plus longs.
On veut y mettre un peu plus de moyens.
Exactement. Voilà, ça devient un genre en soi, et après ça prendra plus d'essor dans les années 50, voilà, sur différentes thématiques, genre rouge, sur le cinéma ethnographique par exemple, le cinéma vérité également dans les années 60, voilà, Chronique d'honnêteté d'Edgar Morin et Jean Rouge, hein, que je conseille à tout le monde. Mais ça le début, c'est aussi les années 40.
Et puis alors on termine donc cette décennie en 1949 qui en ouvre une autre, en appelle une autre avec sur les écrans les débuts de la carrière de Jacques Tati.
Oui, tout à fait.
Et puis Le silence de la mer aussi de Jean-Pierre Melville, donc qui seront des grands réalisateurs.
Des grands réalisateurs. Le jour de fête qui devait être tourné avec une pellicule Thomson Color en couleur. Donc il y avait eu La Belle Meunière, c'est une adaptation de La vie de Schubert, devait être en couleur avec le rendu n'est pas top, mais là ça devait vraiment être le premier film en couleur, mais il y a eu des problèmes. Heureusement, il y avait une caméra noir et blanc qui a tourné, et on a pu en 88 proposer la version couleur. C'est intéressant parce qu'il y a la couleur qui va prendre de l'essor dans les décennies suivantes, notamment avec French Cancan par exemple, de Jean Renoir, un hommage à son père. Il y a aussi Rendez-vous de juillet, de Jacques Becker, qui est un film qui est un hymne à la jeunesse, avec le jazz en fond sonore, mais voilà, Daniel Gélin, Maurice René, Brigitte Aubert, Nicole Courcel, des acteurs qui vont, pour la peine, certains vont devenir importants, mais aussi un film sur la jeunesse qui va appeler plein d'autres dans la décennie suivante et dans les années 60 pour montrer une nouvelle génération, des conflits avec la génération précédente, et effectivement Melville qui va devenir effectivement un cinéaste important.
Le réalisateur qu'on connaît,
voilà, et là son premier film, un film qui traite déjà de la résistance bien avant Léon Morin-Prêtre et L'Armée des Ombres, une résistance qui se fait par le silence, un film d'après Vercors. Le bouquin est formidable aussi, et le film, voilà, on trouve déjà la patte de Melville dans les silences, dans une mise en scène au cordeau. C'est un film vraiment extrêmement intéressant. Tout ça, c'est 1949, et on a déjà basculé dans ces trois exemples. Il y a aussi le cas d'une si jolie plage aussi que je trouve très bien d'Yves Allégret avec Gérard Philippe. On a déjà basculé dans une nouveauté qui va, voilà, éclore dans la décennie suivante et même au-delà.
Très bien, bah merci beaucoup Denis.
Bah c'est moi, merci beaucoup.
C'était passionnant, donc je rappelle, hein, une histoire du cinéma français, le tome 2, les années 40, donc co-écrit par Denis Zorniotti et Philippe Palin.
Voilà, aux éditions Leitmotif, hein, L-E-2-T-M-O-T-I-F.
Voilà, les références sont sur le site de Jet FM, bien sûr.
Merci à toi.
Bonne soirée, et dans un instant, ailleurs avec Vivien.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants.